La semaine dernière, Pierre commençait sa prédication en disant qu'il y a des textes bibliques, des passages de la Bible qui sont plus connus que d'autres. Il voulait parler des béatitudes et il a commencé une série sur les béatitudes dans l'évangile de Matthieu au chapitre 5. Il y a aussi des textes bibliques, des passages de la Bible qui intriguent plus que d'autres, voire même qui ont parfois un côté assez déroutant. Je pense ne pas faire trop erreur en disant que le livre de l'Apocalypse fait partie de ces textes. J'espère que ce sera un peu moins le cas dans environ 40 minutes. J'ai l'impression que l'Apocalypse, ce dernier livre dans nos Bibles, n'est pas tant étudié que cela dans les églises. Il faut dire qu'il laisse place à beaucoup d'interprétations et ce n'est pas toujours évident d'oser s'y lancer. Parfois, je me demande même si le monde ne parle pas davantage de l'Apocalypse que l'Église elle-même. Il est question de l'Apocalypse avec un accent sur des événements apocalyptiques dans des films avec des catastrophes mondiales, etc., dans des livres, dans des revues spécialisées, des BD, dans l'actualité. Quand on voit, on est témoin d'événements météorologiques d'une grande ampleur, etc., etc. Et pourtant, ce livre de l'Apocalypse a bien des choses à nous dire, à nous enseigner, à nous en tant que croyants, en tant qu'Église, aujourd'hui encore. Et c'est pourquoi nous démarrons, en parallèle de la série sur les béatitudes que Pierre va mener, une série d'enseignements sur le livre de l'Apocalypse. Et je vous invite à suivre la lecture des 8 premiers versets de ce livre. Le texte va être affiché ici. Les 8 premiers versets de ce livre de l'Apocalypse. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée pour montrer à ses serviteurs ce qui doit arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Celui-ci a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, tout ce qu'il a vu. Heureux celui qui lit et ceux qui écoutent les paroles de la prophétie et observent ce qui y est écrit, car le temps est proche. Jean, aux 7 églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était, et qui vient, de la part des 7 esprits qui sont devant son trône, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né d'entre les morts, le souverain des rois de la terre. À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu, son Père, à lui la gloire et le pouvoir au siècle des siècles. Amen. Voici, il vient avec les nuées et tout œil le verra, même ceux qui l'ont transpercé et toutes les tribus de la terre se lamenteront à son sujet. Oui, amen. Moi, je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient. Le Tout-Puissant. Nous avons là, avec ces 8 versets, une introduction à l'ensemble du livre. Une introduction qu'on peut elle-même découper en 4 parties, comme j'ai tenté de le faire ici. On a tout d'abord une présentation de ce livre, une salutation, une adoration et une annonce. Donc, première partie de cette introduction du livre de l'Apocalypse, une présentation dans les versets 1 à 3. Finalement, de quoi parle-t-on quand on ouvre le livre de l'Apocalypse ? C'est le premier mot du livre qui a donné lieu au titre du livre, à savoir le mot « apocalypse » du grec « apocalypsis ». Et contrairement à ce qu'on pense souvent, « apocalypse » ne signifie pas quelque chose de ténébreux, d'obscur, de compliqué ou quoi. Au contraire, Apocalypse signifie révélation. Et d'ailleurs, les Bibles anglaises traduisent le titre du livre par « Revelation », parce que c'est ce que veut dire ce mot-là, « Apocalypse ». Apocalypse n'est pas une traduction, c'est une transcription du grec vers le français. Et donc cette révélation, ce livre de l'Apocalypse, elle n'est ni plus ni moins une révélation, une communication qui nous provient de Dieu le Père. Dieu le Père l'a communiqué à Jésus-Christ, son Fils, et Jésus à son tour a communiqué cette révélation à ses serviteurs, pour l'Église en fait. Précisons un peu plus, il s'agit d'une révélation par l'intermédiaire d'un ange et de Jean, un serviteur de Dieu. Je relis les deux premiers versets. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée pour montrer à ses serviteurs ce qui doit arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Celui-ci a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, tout ce qu'il a vu. Un mot rapide concernant l'ange, il sera question à de nombreuses reprises de la mention d'un ange aux côtés de Jean dans le livre, et les anges tiennent une place assez importante dans ce livre, on aura l'occasion d'y revenir. Jean, quant à lui, il est présenté ici comme son serviteur, serviteur de Jésus-Christ. Il s'agit de Jean, l'apôtre, le fils de Zébédée, le frère de Jacques, hein, l'auteur, l'apôtre dont il est question aussi dans le Nouveau Testament, qui a écrit l'évangile de Jean, dont on a lu plusieurs passages tout à l'heure avec Olivier dans la première partie de ce culte, et qui a écrit également les trois lettres que nous avons dans le Nouveau Testament. Donc on a cinq écrits de l'apôtre Jean dans le Nouveau Testament. L'évangile, les trois lettres et l'Apocalypse. Jean s'exprime ici d'ailleurs avec l'autorité qui était celle des apôtres du Nouveau Testament. Il s'attendait à ce que son écrit soit reçu comme un écrit réalisé, fait par un apôtre, sans que ce soit remis en question. Il s'y attendait tellement qu'il n'a même pas jugé utile de dire, de se présenter en disant « Jean, apôtre de Jésus-Christ », comme on peut avoir « Paul, apôtre de Jésus-Christ », à ceux qui, etc., parce que c'était évident de la part de ses lecteurs qu'il s'agissait bien de l'apôtre Jean. Même pas besoin de le mentionner. Dans ce livre, Jean joue un rôle de prophète. D'ailleurs, dans la Bible, et en particulier dans l'Ancien Testament, on désignait souvent un prophète comme étant un serviteur de l'Éternel. Les prophètes étaient des serviteurs. Et Jean ici est présenté comme serviteur aussi de Dieu. Il joue un rôle de prophète et au verset 3, je l'ai affiché en vert ici, il est fait mention des paroles de la prophétie, car le livre de l'Apocalypse contient donc des paroles, une prophétie que Dieu communique à son Église. Jean est prophète dans ce sens de porte-parole de Dieu, tout comme l'étaient les prophètes de l'Ancien Testament. Et tout ce qu'il a vu, il va le retranscrire. Ce n'est pas Jean qui fait cette révélation, c'est Dieu lui-même qui la communique à Jean, et Jean ne fait que simplement porter la parole de Dieu, il est prophète. C'est cela le rôle d'un prophète dans la parole de Dieu, dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau. Une révélation qui a un but. Montrer ce qui doit arriver bientôt. On l'a au verset 1. Intéressant d'ailleurs ce verbe « montrer » ici, car il annonce la forme sous laquelle la révélation est communiquée. Ce sont des visions qui sont montrées à Jean. Et d'ailleurs, dans ce livre, on trouve 44 fois l'expression « je vis », le verbe « voir »,« je vis », car c'est bien des visions que Jean va retranscrire dans son livre, tout ce qu'il a vu, comme on le lit à la fin du verset 2. Montrer des visions pour montrer ce qui doit arriver bientôt. Alors, comment comprendre ce « bientôt » ? Le Nouveau Testament dit à plusieurs reprises que la première venue de Jésus, donc il y a 2000 ans en arrière, a inauguré les derniers temps, les temps de la fin, les derniers jours, des expressions synonymes. Nous sommes dans les temps de la fin depuis la venue de Jésus, depuis sa mort, sa résurrection et son retour en gloire vers le Père. Quelques décennies après son retour vers le Père, le Nouveau Testament dit des choses par la plume de l'apôtre Jean, par exemple, le même apôtre qu'ici. « Jeune Jean, c'est l'heure dernière. » Je n'ai pas affiché les références, mais c'est 1 Jean 2,18. Hein, c'est l'heure dernière. Ou encore l'auteur de la lettre aux Hébreux qui dit « Dieu nous a parlé par le Fils en ces jours qui sont les derniers. » Mais il a écrit ça il y a 2000 ans. Parce que finalement, le prochain événement d'ampleur dans l'agenda du Seigneur, que lui seul connaît, c'est le retour de Jésus. Et tout s'achemine de manière inéluctable vers le retour de Jésus, de telle sorte que le retour de Jésus est proche. C'est tellement inéluctable que ça fait 2000 ans que son retour est proche. Et il y a 2000 ans, dans le Nouveau Testament, des personnes comme Jacques pouvaient écrire « Vous aussi, prenez patience, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. » Il a écrit ça il y a 2000 ans. « La fin de toute chose est proche. » Là, c'est Pierre. Paul, dans Romains, « Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. » Il fait référence à ce qui se passera à la fin de la fin des temps. Mais ça fait déjà 2000 ans que c'est bientôt. Le même bientôt qui est utilisé dans notre passage ici d'Apocalypse 1, verset 1, ce qui doit arriver bientôt. Parce que c'est une évidence, tout s'y achemine de manière inéluctable au point que le retour de Jésus est sans cesse bientôt. Et par conséquent, puisque le retour de Jésus est pour bientôt, et depuis 2000 ans on peut dire cela, le retour de Jésus est pour bientôt, eh bien il faut s'y préparer. Et peut-être, quel que soit à tout âge de la vie auquel on est, mais peut-être tout particulièrement quand on est jeune, parce que quand on est jeune, on se dit oh, « j'ai toute la vie devant moi, j'ai le temps pour réfléchir à toutes ces questions d'ordre spirituel. La fin du monde, c'est pour dans longtemps. » Je nous renvoie au livre de l'Ecclésiaste. On a fait une petite série sur ce livre l'année dernière. Et l'Ecclésiaste martèle qu'on ne sait pas de quoi notre avenir sera fait. Je cite Henri Blocher dans son livre « L'espérance chrétienne ». Lorsqu'un individu est enlevé par la mort pour aller dans la présence du Seigneur, c'est pour lui-même individuellement l'équivalent de la fin du monde. » Fin de citation. Et Henri Blocher continue en invitant à la vigilance, à se tenir prêt par rapport à ce retour de Jésus, à cette fin du monde. C'est donc maintenant qu'il nous faut se soucier de ces questions. Peut-être que Jésus reviendra dans 3000 ans, mais si une personne meurt dans 3 jours, la fin du monde pour cette personne, c'est dans 3 jours. C'est comme la fin du monde pour elle. Parce que, dans le sens, elle ne peut plus interagir avec ce monde. Elle le quitte, c'est terminé, c'est la fin pour elle. Est-ce que cette personne s'est préparée de son vivant à rencontrer Dieu ? Alors oui, on peut dire « Oh, c'est dans longtemps ». Mais comme on ne sait pas de quoi demain sera fait, de quoi cet après-midi sera fait, c'est aujourd'hui, c'est maintenant qu'il faut se poser ces questions, qu'il faut se questionner, se dire « Mais est-ce que je suis prêt à rencontrer mon Créateur ? Qui est Jésus pour moi ? Est-ce que je crois au plus profond de moi en Jésus ? Est-ce que je lui ai confié ma vie ? Parce que viendra un jour où ce sera trop tard pour se poser ces questions. Cette révélation qui nous est donnée ici, elle nous est donnée pour notre bien, pour notre bonheur. Et le livre commence par ce qu'on appelle une béatitude. Encore une, dis donc, au verset 3. Pierre le disait la semaine dernière, les béatitudes, il n'y en a pas qu'en Matthieu 5 et dans l'évangile de Luc, dans le passage parallèle. Il y en a ailleurs aussi dans la Bible, il le disait. Et le livre de l'Apocalypse s'ouvre par une béatitude. Relisons le verset 3. « Heureux celui qui lit et ceux qui écoutent les paroles de la prophétie et observent ce qui est écrit dans ce livre. » C'est la première béatitude. Je mentionne première béatitude parce que dans ce livre, il y en aura sept au total, dans ce livre de l'Apocalypse. Cette révélation nous est donnée pour notre bonheur, afin de connaître les grandes lignes, j'insiste bien sur les grandes lignes du projet de Dieu concernant la suite de l'histoire, mais aussi afin que les croyants vivent dans la vie présente en conséquence de cette révélation. Cette révélation nous engage en tant que chrétiens à obéir à la parole de Dieu d'une manière générale et à obéir à ce livre de la prophétie, à ce livre de l'Apocalypse en particulier. Autrement dit, cette révélation de Dieu qui est qualifiée ici de prophétie au verset 3, elle est destinée à susciter une réponse de notre part. Tout comme d'ailleurs les prophéties que l'on a dans l'Ancien Testament. Parfois on pense prophétie, ça veut dire des prédictions sur l'avenir. Alors, ça peut être le cas. Mais quand on regarde les prophéties dans l'Ancien Testament, c'était surtout et avant tout pour rectifier des choses dans l'attitude du peuple. Changez de comportement, revenez vers l'Éternel. Sinon, il vous arrivera ça. Et là, on avait des prédictions. Mais la chose la plus importante dans les prophéties, c'est ce retour à Dieu, se réaligner avec la volonté de Dieu, conformer sa vie avec le Seigneur. La réponse attendue de notre part, c'est d'écouter, d'entendre, de lire et d'observer, de garder, d'obéir, de mettre en pratique, ce sont des synonymes tout cela, ce qui est écrit dans ce livre. Et dans ce verset 3, il n'y a pas trois groupes de personnes. Il y a ceux qui lisent, ceux qui entendent, écoutent, et puis ceux qui obéissent. Non. Il y a un seul groupe de personnes qui vont lire, qui vont écouter et qui vont obéir à ce livre de l'Apocalypse. Ceux-là sont heureux parce qu'ils mettent en pratique ce livre de l'Apocalypse. John MacArthur, dans son commentaire sur le livre de l'Apocalypse, écrit ceci. L'Apocalypse est le seul livre du Nouveau Testament qui contient une promesse de bénédiction pour ceux qui étudient et appliquent son message. C'est pourquoi chaque croyant devrait prendre le temps d'étudier ce livre. Chaque croyant, chaque chrétien est concerné par la lecture de ce livre de l'Apocalypse, par l'écoute de son message, mais aussi par la mise en pratique, l'obéissance aux paroles de la prophétie. Et cela parce que Jean dit ceci, enfin l'Apocalypse dit ceci, parce que le temps est proche, fin du verset 3. Le temps est proche. Sous-entendu, nous sommes là encore, je le disais il y a un instant, nous sommes dans les temps de la fin. Le retour de Jésus est pour bientôt. Et même s'il a lieu, je le redis, dans 3000 ans, la fin du monde, elle peut être bien plus proche dès lors qu'on quitte cette terre. Et on ne sait pas de quoi demain sera fait. Il me semble important d'insister sur la notion d'obéissance. Parce que ce livre de l'Apocalypse lui-même insiste dessus. Le livre de l'Apocalypse est structuré, il est agencé, pour le dire autrement, il est agencé de telle sorte que l'introduction fait écho à la conclusion du livre. Et je vais vous lire quelques extraits de cette conclusion qui est dans Apocalypse 22, les versets 6 à 21, mais je vous lis juste quelques versets ici. Il me dit « Ces paroles sont certaines et vraies. Le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs ce qui doit arriver bientôt. » Tiens, on a ça aussi dans l'introduction. « Voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. » Verset 10. Puis il me dit, « Ne ferme pas d'un sceau les paroles de la prophétie de ce livre, car le temps est proche. Je suis l'alpha et l'oméga. Le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux, point de suspension. C'est la dernière béatitude de ce livre. Et il continue au verset 18 avec une mise en garde. Je l'atteste à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute, Dieu ajoutera à son sort les plaies décrites dans ce livre. Et si quelqu'un retranche des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de vie de la ville sainte décrit dans ce livre. Le livre de l'Apocalypse est donc encadré par l'invitation à, c'est même plus qu'une invitation, l'exhortation à l'obéissance à toute la prophétie du livre, sans rien y ajouter, sans rien à y retrancher. Cette révélation, elle a donc pour but d'éclairer et non pas d'embrouiller. Parfois, on arrive avec l'Apocalypse, on ouvre l'Apocalypse et on se dit « ça y est, je ne vais rien comprendre ». Retirons ces lunettes-là. Ce livre a été écrit pour nous révéler quelque chose et non pas pour nous embrouiller. Les premiers destinataires du livre de l'Apocalypse étaient des chrétiens persécutés à cause de leur foi en Jésus-Christ. On y reviendra plus loin dans le texte. Et d'ailleurs, Jean, l'apôtre qui écrit, lui-même était aussi emprisonné à cause de la foi en Jésus, de sa foi en Jésus. Et donc, comme l'écrit un commentateur, l'Apocalypse a été envoyé à des gens qui n'avaient pas le temps de jouer à résoudre des énigmes. Ce n'est pas la promesse d'un casse-tête, fin de citation. Puisque ce livre doit susciter notre obéissance, il n'est pas écrit dans un langage codé. Vous imaginez s'il fallait décoder un livre pour après le mettre en pratique ? Ça n'aurait aucun sens. Le livre de l'Apocalypse ne devait certainement poser aucun problème de compréhension pour les premiers destinataires. Pour nous, chrétiens du XXIe siècle, si ce livre nous paraît parfois compliqué, ce n'est pas parce qu'il est compliqué. Mais c'est bien plutôt parce que nous ne savons pas comment le lire, et notamment parce que nous ne percevons pas bien l'usage que l'Apocalypse fait de l'Ancien Testament. Et je vous renvoie à la prédication du 8 septembre, il y a tout juste 2 semaines, où nous avons parlé de l'utilité, la pertinence de l'Ancien Testament pour nous, chrétiens, encore aujourd'hui, et pourquoi il faut le lire, et aussi comment lire l'Ancien Testament. J'aurai l'occasion de parler un peu plus explicitement de l'Apocalypse, de son lien à l'Ancien Testament, dans l'étude biblique du mercredi 16 octobre et celle du jeudi 17 octobre, parce qu'en octobre, on reprendra les études bibliques le jeudi après-midi aussi. Donc voilà, une petite page de publicité. Présentation du livre avec les versets 1 à 3. Deuxième partie, nous avons une salutation dans les versets 4 et début du verset 5. Jean, aux 7 églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, de la part des 7 esprits qui sont devant son trône, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né d'entre les morts, le souverain des rois de la terre. Le livre de l'Apocalypse se présente comme une lettre. Je ne sais pas si vous aviez déjà remarqué ça. Une lettre adressée à des églises. Il y a un auteur, on vient d'en parler, hein, c'est l'apôtre Jean. Il y a des destinataires, il y a un vœu, hein, que la grâce et la paix, comme on a dans beaucoup de lettres du Nouveau Testament. Les destinataires ici, ce sont les 7 églises qui sont dans la province romaine d'Asie, ce qui correspond, si on regarde une carte du bassin méditerranéen aujourd'hui, ça correspond à une situation géographique dans l'ouest de la Turquie. Voilà, 7 églises qui sont là. Et le chiffre 7 n'est certainement pas un hasard. D'ailleurs, le chiffre 7, c'est le chiffre préféré du livre de l'Apocalypse. Je mentionnais tout à l'heure qu'il y a 7 béatitudes, et vous verrez que le chiffre 7 reviendra très souvent. 7 représente la plénitude, la totalité. Cela suggère fortement que les 7 églises représentent non pas seulement les 7 églises qui seront mentionnées au verset 11, mais toutes les églises, en tout temps et en tout lieu. D'ailleurs, dans les chapitres 2 et 3 de l'Apocalypse, on trouve 7 lettres adressées à ces fameuses 7 églises. Mais j'attire votre attention sur cela, c'est que là où chaque lettre commence par une adresse personnelle, par exemple, écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, eh bien, à la fin de cette lettre, nous avons que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises, et non plus seulement à l'église d'Éphèse. Parce que ce qui est dit pour l'église d'Éphèse, ça vaut pour les églises, en tout temps et en tout lieu. Et donc, ça vaut pour nous aujourd'hui encore. Nous, chrétiens du 21e siècle, nous sommes concernés par le message, par le contenu de ce livre de l'Apocalypse. Il y a une invitation à ce que, en tant qu'église locale, bien sûr, on est concerné par tout ce que nous faisons au niveau local, avec notre église, notre rayonnement ici dans la cité. Mais il y a aussi une invitation à prendre du recul, à prendre conscience que la réalité de l'église n'est pas que la réalité locale, mais qu'il y a aussi beaucoup de choses qui se vivent au niveau départemental, régional, national, international. Comment est-ce que Dieu agit ailleurs dans le monde par son Église? Comment l'Église se développe-t-elle ici ou là? Eh bien, c'est ce que nous ferons d'ailleurs ce mercredi soir en réunion de prière, nouvelle page de publicité, pour s'informer de ce que Dieu fait à un niveau national et même international, et pour, on sera en réunion de prière, prier pour tout ce qui se fait. Je n'en dis pas plus à mercredi soir. Cette salutation, ici, elle a des destinataires et elle contient aussi, je le disais tout à l'heure, un vœu. Que la grâce et la paix vous soient données. Et dans le contexte des premiers destinataires, hein, un contexte de persécution, d'épreuve, ben, Jean a leur adresse ce vœu de grâce et de paix parce qu'ils en ont besoin. Ils sont éprouvés fortement. Notons que cette grâce et cette paix sont données de la part du Dieu trinitaire. Il est question de Dieu le Père, hein, qui vous soit donné de la part de celui qui est, qui était et qui vient. Et cela désigne Dieu le Père en référence à la manière dont Dieu l'Éternel s'est révélé à Moïse lors de l'épisode du buisson ardent en Exode chapitre 3. « C'est quoi ton nom ?» Eh bien, l'Éternel lui dit « Je suis. Je suis. Je suis celui qui est. » Tout à l'heure, nous avons lu dans l'Évangile de Jean, Jean 8, 58, Jésus a dit « Je suis » pour reprendre cette même appellation que l'Éternel en Exode 3, 14. Et d'ailleurs, dans l'Évangile de Jean, dans la première partie du livre, à sept reprises, Jésus utilise cette expression « je suis le pain de vie ». Je suis le bon berger, etc., etc. C'est d'ailleurs pour cela que plusieurs des Bibles françaises ont choisi de traduire le nom de Dieu par l'Éternel. Parce que Dieu le Père a toujours été, il sera toujours éternellement. Il est l'Éternel. C'est le nom de Dieu. Yahvé. Mais Yahvé, ça veut, bah voilà, Yahvé, ça veut dire je suis en fait. En français, on a traduit par l'Éternel. C'est donc cette grâce et cette paix sont données de la part de Dieu le Père. Elles sont données aussi de la part des sept esprits qui sont devant son trône. Ah, encore le chiffre 7. Je vous avais dit qu'on en parlerait de celui-là. Le 7 pour désigner la plénitude, les sept esprits pour parler ici de la plénitude de l'Esprit Saint. On en reparlera dans la section suivante des sept esprits, mais simplement ici, retenons, ça désigne l'Esprit Saint dans toute sa plénitude. Et troisièmement, au verset 5, de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né d'entre les morts et le souverain des rois de la terre. Trois titres ici sont donnés à Jésus, trois titres qui le décrivent. Il est le témoin fidèle, premièrement, pour attester que cette révélation qui va suivre, elle est parfaitement fiable, fidèle, vraie. On peut y placer notre confiance. Il est, deuxièmement, le premier-né d'entre les morts, dans le sens qu'il a inauguré, la résurrection, qui parachève son œuvre de salut. Et cela nous rappelle que nous, chrétiens, nous ressusciterons corporellement nous aussi. Et il en sera question dans ce livre de l'Apocalypse de la résurrection. Et enfin, Jésus est le souverain des rois de la terre, car depuis qu'il est remonté vers le Père, il règne. Et on se souvient de ce qu'il a dit à ses disciples, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre », en Matthieu 28. Et le livre de l'Apocalypse fera référence aussi à la victoire, cette victoire qu'on a chantée dans la première partie de ce culte, la victoire de Dieu, de Jésus, sur Satan, le diable. Pour les premiers destinataires de l'Apocalypse, c'était important d'entendre cela, de lire cela, c'était une lettre qui leur était adressée. Parce que Rome était considérée comme toute puissante. À l'époque, c'était l'Empire romain qui dominait. Et beaucoup de chrétiens vivaient des tensions, des persécutions. C'est un message important pour nous aussi. Car de tout temps, l'Église a dû faire face à des puissances humaines plus ou moins bienveillantes ou plus ou moins malveillantes. Et il y a une invitation ici à placer notre confiance en Jésus-Christ. Jésus-Christ est le témoin fidèle. Tout ce qu'il dit dans la Bible est vrai. Jésus-Christ est le premier-né d'entre les morts. Et nous ressusciterons aussi. Jésus-Christ est le souverain des rois de la terre. Il est souverain sur la Rome d'il y a 2000 ans. Il est le souverain sur tous les empires d'aujourd'hui. Et tôt ou tard, il reviendra et tout genou fléchira devant lui. Dans un monde qui va mal, que ce soit il y a 2000 ans ou que ce soit aujourd'hui, nous pouvons expérimenter cette grâce et cette paix ici. Pourquoi ? Parce qu'elles nous sont données de la part de notre Dieu trinitaire, le Dieu tout-puissant, et rien ne saurait empêcher cela. Quand on s'accroche à lui par la foi, quand on place notre espérance en lui, on peut goûter, expérimenter cette grâce et cette paix qui nous viennent de lui. Troisième partie de cette introduction, un peu plus courte celle-ci, au verset 5 et 6, avec une adoration. À celui qui nous aime, j'ai été un petit peu trop loin, excusez-moi, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. Dieu, par amour pour nous, nous a sauvés. Il nous a délivrés de nos péchés en mourant sur la croix, en la personne de son Fils Jésus-Christ. Son sang a coulé, et on va le rappeler tout à l'heure avec le partage de la scène. Et cela suscite notre adoration, notre louange à ce Dieu qui nous a sauvés, qui a quitté, Jésus-Christ a quitté, comme on l'a vu tout à l'heure avec la première partie de ce culte, il a quitté la gloire du Père pour venir jusqu'à nous et pour mourir pour nous. Mais ça ne s'arrête pas là, ça suscite notre adoration, notre louange, mais ça ne s'arrête pas là. Dieu nous a sauvés pour servir. En tant que sacrificateur, comme on le lit au verset 6, il a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père. Il y a aussi un lien avec l'Ancien Testament ici et le livre de l'Exode, chapitre 19, verset 6, où nous lisons, au moment où le peuple d'Israël est là au pied du mont Sinaï, « Quant à vous, vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte, dit l'Éternel. » On peut noter le verbe ici, « Vous serez pour moi un royaume. » L'histoire a montré que le peuple de Dieu dans l'Ancien Testament n'a jamais réussi à accomplir ça, à avoir ce rôle de témoin pour les nations alentour et d'être ses sacrificateurs pour Dieu. Mais maintenant, en Jésus-Christ, en vertu de ce que Jésus a fait pour nous par sa mort sur la croix, eh bien, c'est devenu une réalité au point que Jean puisse dire, « Il a fait de nous un royaume des sacrificateurs ». C'est devenu réalité. Les chrétiens, en tout temps et en tout lieu, sont un peuple de sacrificateurs au service de Dieu le Père. Être des sacrificateurs, c'est l'adorer, comme ce verset nous y invite. Et nous adorons Dieu chaque fois que nous nous retrouvons, comme là ce matin en église, pour le louer ensemble, pour l'adorer, pour chanter, pour lui adresser nos prières de reconnaissance, de louange. Mais nous l'adorons aussi tout au long de la semaine, tout au long de notre vie, par notre consécration, par notre obéissance, par notre service pour Dieu, pour son Église, par le don de soi, par notre témoignage. Nous sommes des témoins du témoin fidèle qu'est Jésus-Christ. Dans l'Église, il n'y a pas les sacrificateurs d'un côté qui sont ceux qui sont impliqués, qui sont au service dans l'Église, et puis de l'autre, ceux qui sont moins impliqués, voire pas du tout. Je vous renvoie à la prédication que Pierre a faite le 1er septembre, au début de ce mois, quand on a eu les baptêmes de Maria et Simon, où il avait parlé justement de cette vie de service à laquelle nous sommes appelés en tant que disciples de Jésus. Nous sommes tous sacrificateurs, hommes et femmes, jeunes et moins jeunes. Et tout ce que nous faisons, c'est pour la gloire de Dieu. À lui la gloire et le pouvoir au siècle des siècles. Amen. Enfin, pour terminer sur l'introduction du livre, nous avons la quatrième partie avec une annonce. Au verset 7, « Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont transpercé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à ce sujet. » Oui, amen. Ce verset contient deux citations de l'Ancien Testament. Et je l'ai déjà dit et on le reverra, l'Ancien Testament est partout dans l'Apocalypse. Partout, partout, partout. Et je suis très loin d'avoir vous avoir montré toutes les allusions à l'Ancien Testament dans les six versets précédents. Sinon, il m'aurait fallu la journée. Et ça aurait pris plus que 40 minutes. Il ne m'en reste plus que 3. Première allusion, il vient avec les nuées, ici. Une référence au prophète Daniel, chapitre 7, verset 13. Jésus avait déjà cité ce passage de Daniel 7, verset 13, pour annoncer son retour. On lit cela dans les évangiles, parce que c'est bien du retour de Jésus dont il est question dans ce verset 7, ici. La seconde référence à l'Ancien Testament, elle est moins connue, celle-ci. Une référence à Zacharie 12, verset 10, et ceux qui l'ont transpercé. Il est question de cela dans Zacharie 12. Et dans le contexte de Zacharie 12, il est question du Messie qui sera mis à mort par son propre peuple. Mais le peuple va s'en repentir par la suite, il va verser des larmes de repentance et se lamentera d'avoir transpercé le Messie. Et la mention ici que toutes les tribus de la terre se lamenteront à son sujet, ça suggère que des personnes de tous les peuples vont s'associer aux Israélites. Parce que finalement, nous sommes tous impliqués dans la mort de Jésus, de par nos péchés. Si Jésus est mort sur la croix, ce n'est pas uniquement pour les péchés des Israélites. Il est mort aussi pour nos péchés à nous. Et le peuple de Dieu de la Nouvelle Alliance, qui est l'Église, est constitué de chrétiens qui sont d'origine juive, et aussi de chrétiens qui sont d'origine non-juive, comme c'est le cas, je pense, pour la plupart d'entre nous. C'est tellement important ce qui vient d'être dit que ça se termine par ce « oui, amen, qu'il en soit ainsi ». C'est fiable, c'est important ce qui vient d'être dit dans ce verset. L'introduction du livre donc se termine avec cette annonce dont on a déjà parlé tout à l'heure, mais qui sera martelée dans tout le livre, l'annonce que Jésus va revenir. Et c'est tellement important que c'est Dieu lui-même qui atteste cette vérité du retour de Jésus avec le verset 8. « Moi, je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. » L'alpha et l'oméga sont respectivement la première et la dernière lettre de l'alphabet grec. Pour dire que voilà, il est le commencement et la fin, le début, la fin. Le Seigneur Dieu est l'alpha, c'est-à-dire qu'il est le commencement de toute chose, le créateur de tout être. Il est aussi l'oméga, dans le sens où il est la finalité de l'histoire. On retrouve aussi dans l'expression, la même expression qu'au verset 4, hein, celui qui est, qui était et qui vient, et qui désigne est déjà le Dieu le Père, dans le verset 4, quand il était question de Dieu le Père qui donne la grâce et la paix. Celui qui était s'attend vers l'alpha, vers le début, hein, le commencement. Ce qui vient s'attend vers l'oméga. Et entre les deux, on pourrait se dire, il y a quoi ? Il est là, Dieu, entre les deux ? Eh bien oui, il est là, parce qu'il est aussi celui qui est, maintenant, aujourd'hui. Au premier destinataire qui lisait ces paroles de Dieu, à nous aujourd'hui qui lisons ces paroles de Dieu, l'Apocalypse nous dit, Dieu est présent. Jésus est retourné vers le Père en Matthieu 28 et il a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il est là. Il est Seigneur. Il est même précisé qu'il est le Tout-Puissant, c'est-à-dire, pour reprendre les mots d'un commentateur, je cite, « Il contrôle tout le déroulement de l'histoire qu'il achemine selon ses décisions, de son début à la fin. » Fin de citation. Le Seigneur Dieu vient attester que, avec ce verset 8, que rien ni personne ne saurait être une entrave à cette annonce du verset 7 que Jésus va revenir. C'est inéluctable, le Seigneur Dieu est le maître de l'histoire. Voilà donc l'introduction, j'affiche une diapo récapitulative de tout ce que l'on a vu, cette introduction au livre de l'Apocalypse, 8 versets, qui permettent d'entrer, je pense, dans ce livre. L'Apocalypse est un livre qui nous encourage. En tant que chrétiens qui cheminons dans la vie présente avec les vicissitudes de la vie, avec nos doutes, avec nos craintes, avec les épreuves que nous pouvons traverser, parfois les persécutions que nous pouvons endurer, la révélation qui est contenue dans ce livre nous fait voir ce que nous ne pouvons pas voir depuis ici. La réalité n'est pas limitée à ce qu'on voit. Et quand on regarde la réalité, quand on s'abreuve de tout ce qu'on peut voir dans les actualités, quand on voit ce monde qui va mal, on a toute raison de douter et de se dire « mais ça ne va pas, on va dans le mur ». Ce livre de l'Apocalypse nous fait voir qu'il y a une autre réalité qui existe aussi, qu'on ne peut pas voir depuis ici, mais qu'on entrevoit, qu'on aperçoit par ce que l'apôtre Jean va nous dire dans ce livre. Et en ce sens, ça nous encourage, parce que Dieu est le maître de l'histoire, dans ce qui se passe dans le monde invisible, mais aussi le maître de l'histoire de ce qui se passe dans le monde qu'on peut voir, celui-là. Donc, le livre de l'Apocalypse est un livre qui nous encourage. Mais c'est également un livre qui nous engage par une vie d'adoration, dans ce sens de consécration à Dieu, de don de soi pour la gloire de Dieu. En amour pour son amour pour nous, lui qui s'est livré pour nous sauver, pour nous délivrer et pour faire de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu son Père. L'Apocalypse est donc un livre à obéir. Il nous faut y obéir. Chers frères et sœurs, dans ce que nous vivons aujourd'hui, chacun, chacune, que notre Dieu trinitaire nous donne de vivre et d'expérimenter cette grâce et cette paix qui sont mentionnées ici. Amen.